Bonjour, les produits de l'an 2000, l'immobilier, l'argent du sport, voilà quelques-uns des sujets sur lesquels s'est penché depuis la rentrée le magazine économique de M6 Capital. Capital, un des plus gros succès d'audience de la télévision française d'aujourd'hui. Mais avec quels obstacles, quelles difficultés peut-on faire de l'investigation économique quand on est une émission de télévision et quand on est a fortiori une émission de télévision diffusée par une chaîne privée, elle-même filiale de plusieurs groupes industriels? Nous nous poserons toutes ces questions à la deuxième partie de cette émission et nous le ferons en présence du producteur et animateur, présentateur de l'émission de M6 Capital, Emmanuel Chin, que je remercie de se prêter à ce petit exercice, mais qui au fond n'est pas très différent de l'exercice, enfin c'est en tout cas comme ça que nous l'avons conçu, et c'est pour ça que l'idée nous a amusés au départ, et encore une fois merci de vous y être prêté.
Merci de nous. D'avoir invité, enfin de
m'inviter. N'est pas très différente du mauvais traitement que vous-même faites subir aux entreprises sur lesquelles vous enquêtez, sur lesquelles vous investiguez, à qui vous posez toutes sortes de questions.
Pourquoi mauvais traitement?
Pointu, gênant, parce que quand on fait de l'enquête, c'est parfois pour poser des questions un peu gênantes, un peu pointues, et auxquelles les gens n'ont pas forcément envie de répondre
parfois,
toujours.
Parfois ils n'ont pas envie de répondre, parfois ils ont aussi envie de répondre, et heureusement d'ailleurs.
Absolument.
Sinon, on aurait du mal à faire de l'information.
Sinon l'exercice serait parfois
sera difficile.
Bon, alors en tout cas, ce sera à vous de nous dire, à l'issue de cette émission, si vous l'avez jugé concluant.
Voilà, et comment nous fabriquons capital.
Et comment vous fabriquez capital. Alors, et si on prend ce principe-là dès le départ de cette émission, voilà la manière dont j'aurais dû, normalement, au lieu du sommaire que vous avez vu, présenter l'émission. Deux émissions par mois, 10 reportages, 3 heures d'antenne. Quelles sont les sources d'informations les plus secrètes d'Emmanuel Chin? Comment trouve-t-il toutes ces idées? Ils sont quatre, ils constituent la direction de l'Empire C Productions. Pour la première fois, une caméra pénètre au cœur de la machine capitale. Leurs interlocuteurs, les entreprises françaises, comment parviennent-ils à les convaincre à effectuer leur mission d'information? À qui profite vraiment le business de capital? Est-ce que l'essai a été réussi?
Assez pastiche, c'est comme une caricature, alors parfois, mais ça a le charme des caricatures.
Voilà. Bon, c'est Colombe Schneid qui a enquêté sur les images de Capital.
Je peux dire quelque chose de gentil?
Oui.
J'ai regardé beaucoup d'émissions de Capital en 15 jours, 18. Je ne me suis jamais ennuyée et j'ai appris beaucoup de choses.
Vous voyez, alors là, vous avez eu le temps de le dire. Arnaud Vivian s'arrêtera sur quelques images et Benoît Van Destine sur quelques images d'actualité, à commencer par une découverte absolument terrifiante de France 2, une fraude au téléphone portable.
Aux États-Unis, on consacre déjà beaucoup d'argent à cette nouvelle forme de criminalité. Elle touche notamment le secteur du téléphone portable. Reportage de notre correspondant Philippe Gassot.
Quelle que soit la marque de votre téléphone, il ne faut que quelques secondes pour prendre votre numéro à la volée quand on possède un scanner. La démonstration est faite ici en vraie grandeur. Ça y est, je l'ai. Le numéro sera introduit dans une puce et placé dans l'appareil et le tour est joué. Il sera revendu plusieurs centaines de dollars. Ensuite, communication gratuite pour l'acheteur peu regardant pendant quelques heures.
Alors, ces images, j'en ai rappelé quelques autres à notre documentaliste Benoît Vignot-Ferrand.
Oui, parce que c'est en fait une très belle expérience menée par Philippe Gassot. De très belles images, et cette expérience n'avait jamais été tentée par un présentateur, par un journaliste sur place. Il y avait eu une petite tentative, c'était l'année dernière, à peu près à la même époque, c'était toujours sur France 2.
L'escroquerie au téléphone portable, les numéros sont interceptés et revendus. La fraude porte sur plusieurs milliards de francs par an. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Philippe Gassot.
Quelle que soit la marque de votre téléphone, il ne faut que quelques secondes pour prendre votre numéro à la volée quand on possède un scanner. La démonstration est faite ici en vraie grandeur. Ça y est, je l'ai. Le numéro sera introduit dans une puce et placé dans l'appareil, et le tour est joué. Le préjudice n'est pas mince. Il représente près de 4% du marché pour les compagnies de téléphone.
Alors voilà, il s'agissait bien des mêmes images, hein, les téléphones sur la table.
Un
la
an,
même expérience,
à
un an d'intervalle. Alors, il y avait quand même une très grande différence, c'est que l'année passée, France 2 avait recueilli l'avis de 7 experts.
Ce que nous avons ici, c'est un système anti-fraude qui contrôle en permanence les caractéristiques téléphoniques de nos clients.
Alors, un expert à la télévision chasse l'autre, et cette année, France 2 avait recueilli l'avis de 7 autres experts.
Voilà, très bel exemple de recyclage d'un reportage d'information. Quand vous voyez ça, le journaliste en vous se dit quand même c'est un peu exagéré, ou le chef d'entreprise se dit très bel exemple d'économie, finalement, pourquoi aller retourner deux fois le même sujet?
Ça a été diffusé les deux fois dans le journal de France 2.
Oui.
Un an d'intervalle.
Un an d'intervalle. Et en fait, qu'est-ce qui justifiait une nouvelle actualité sur le sujet ?
Le sommet du G8 sur la traque, justement, de ces petites escroqueries sur téléphone.
Non, ouais. Je me dis pas.
Ça vous choque pas, a priori ?
Ben, non, je trouve que ça aurait été bien qu'on dise voilà, vous avez diffusé ça l'année dernière, par exemple.
Et,
voilà,
et par économie.
Ça n'a pas changé. Non, mais, voilà, et de voir si depuis les choses ont évolué et bougé. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de remettre en perspective les choses avec ce qui a pu se passer dans le passé, etc. Mais là, visiblement, ça n'a peut-être pas été présenté comme ça.
Non. Donc on attend avec impatience décembre prochain pour avoir le nouveau nom de Monsieur John Brown ou Ed Johnson, on sait plus très bien. Arnaud, vous êtes arrêté, vous, sur... Alors vraiment, c'est l'image forte du paysage audiovisuel de la semaine, c'est...
La fameuse mire. C'est une image un peu un pas vide, mais vous savez qu'il y a plein de choses à lire sur la mire. Et d'ailleurs, si vous permettez, je me lève et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à voir sur la mire. Donc là, vous avez l'identification de l'émetteur, donc c'est TDF. L'identification du réseau, donc il s'agit de France 3, le réseau 3. Ça, c'est la mire de barre, donc pour vérifier le niveau chroma. Vous avez là le multiburst pour la bande passante. Et là, vous avez les convergences. Vous voyez, alors si la bande est bien blanche, bien droite, votre téléviseur est mal réglé. Là, vous voyez bien qu'elle est recourbée, pas très bien réglée, alors que ce téléviseur-là, vous voyez, la barre est très très bien, la convergence est parfaite.
Très bien,
c'est une image technique qui vous permet en fait de contrôler votre téléviseur. Le problème, vous avez remarqué, c'est que si on a une mire, c'est qu'il y a une grève, c'est qu'il y a un conflit social. Alors quel rapport entre une image technique...
Ça, vous ne l'avez pas lu sur l'image, ça n'y est pas sur l'image. Hein.
Non, justement, et je trouve que c'est un problème de la part de France 3 de ne pas très bien communiquer sur cette grève, parce que, imaginons par exemple quelqu'un qui rentre de l'étranger, qui allume son poste, qui n'est pas très au courant de ce qui se passe en France, tombe sur la mire, il se dit tiens, mon téléviseur est mal réglé, il y a un problème technique quelque part. Alors que non, il s'agit d'un conflit social. Je me souviens d'une époque où les speakerines disaient excusez-nous de cette interruption involontaire de l'image, une certaine catégorie de personnel, en raison du libre-monde de certaines catégories de personnel, voilà, on ne peut pas. Et on présentait les excuses. Là, aujourd'hui, il n'y a plus la raison de l'interruption de l'image et même pas d'excuses. Je trouve que pour une télévision dont on est les actionnaires.
Oui.
C'est un peu dommageable.
Ouais. D'accord. D'autant plus que si, effectivement, la mire donnait des informations sur la grève, elle serait certainement plus suivie. Il y aurait certainement davantage de gens qui la regarderaient.
Il y a plein de choses à faire.
Et donc, France 3 pourrait augmenter son audience.
On est là dans un océan vierge absolument magnifique.
On va en venir donc à vous et à votre émission Capital. Voilà. Mais merci de me rappeler son nom. Alors, Capital, c'est la seule émission économique aujourd'hui du paysage audiovisuel diffusée en prime time, toute chaîne confondue. Elle passe tous les 15 jours à 20h50. Et je me souviens ici, un des slogans publicitaires de votre chaîne, il y a quelques années, était la petite chaîne qui monte, M6. On peut dire que Capital, au sein de cette petite chaîne qui monte, a été aussi une émission qui est montée, Colombe, depuis ses débuts.
Oui, donc c'est une réussite pas seulement en termes d'image pour la chaîne, mais aussi en termes d'audience, puisque vous êtes les meilleures audiences de la chaîne.
Ça dépend des...
Oui, non, enfin, oui, non, en fait, pour sur l'année qui s'est écoulée, sur les 10 meilleures audiences, 7 c'était Capital. Première audience, c'était 4 mariages à enterrement. Et puis vous passez tout de suite après donc,
On est très bien diffusé aussi, le dimanche soir à 20h50.
C'est un très bon horaire.
Il y a d'autres émissions qui sont diffusées à la même heure, qui font moins bien que vous. Vous battez même vos propres records depuis la rentrée, puisque avec l'émission sur l'immobilier, vous avez fait 5,9 millions de téléspectateurs. Et l'émission qui est passée dimanche dernier, Les Produits de l'an 2000... Vous avez fait aussi presque, vous avez atteint presque aussi la barre des 6 millions.
Mais enfin là, c'est tout dernier jour, c'est pas du jeu, parce que précisément, en raison de la grève de France 3, tout le monde
Mais si on fait comme journaliste de Capital et si on fait des comparaisons, pour bien comprendre, être un peu pédago, ça fait 6 fois plus que nous.
C'est pas mal.
C'est beaucoup.
Mais on vous pardonne.
Mais là, vous parlez des records.
Ça fait 20% de plus, pour ce soir-là, 20% de plus que France 2 qui réunissait 4 millions de personnes avec un film. Mais ça fait 30% de moins que TF1.
Alors, première question, 30% de moins de TF1 le soir de cette émission sur les produits de l'an 2000. Alors, comment vous expliquez ce succès d'audience ?
Je pense que c'est une émission, vous avez très gentiment dit tout à l'heure que vous en avez regardé, je crois, 18 et que vous vous êtes pas ennuyé, que vous avez appris des choses. Je pense que c'est une émission qui est vivante. Nous-mêmes, en la fabriquant, on s'amuse, on apprend des choses.
En fait, l'économie, c'est un sujet difficile quand même.
Oui, mais c'est très vivant. L'économie, ça dépend. Si vous l'apprenez de manière conceptuelle, abstraite, si vous faites de la macroéconomie et des grandes théories, ça peut paraître un petit peu abscon, un petit peu difficile, et en tout cas réservé à des initiés. Et puis si on décide d'expliquer les mécanismes de l'économie de marché à partir d'exemples concrets, que vous pouvez vivre quotidiennement, dans la vie de tous les jours, ça peut devenir beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivant. Et je pense que c'est ce que Capital, en tout cas c'est la ligne éditoriale de Capital qui nous amène à faire ça très régulièrement.
Effectivement, sur le concret, vous êtes imbattable. Est-ce que depuis que vous existez, la lecture que vous avez faite des bons et des mauvais scores de vos émissions vous a permis de dégager des règles? Est-ce que vous avez une idée à peu près claire des sujets qui marchent et des sujets qui marchent moins bien?
Il y a une logique de une dans Capital, puisque c'est une émission où, par principe, tous les 15 jours, nous allons dans un univers. Les produits de l'an 2000, dimanche dernier, 15 jours avant, c'était, je crois, sur les champions, l'univers du sport.
L'argent du sport.
Donc, à la différence d'autres émissions de reportage, où vous avez plusieurs reportages de nature différente dans l'émission, là, c'est une promesse avec un univers très clair. Donc, il y a une logique de une.
Alors, parmi ces une,
dès que les sujets touchent de manière très proche la vie des gens, l'argent du sport, les vacances, l'immobilier, vous avez parlé de l'immobilier, j'achète ma maison, c'est vrai qu'il y a un rapport de proximité, ça marche mieux. Je crois que les scores les plus faibles qu'on ait fait dans Capital, on a fait une émission sur les marchands d'armes. Bon, ça a recueilli moins de téléspectateurs que l'émission sur l'immobilier. Mais en même temps, parfois, on a des surprises inattendues. Et puis nous, on fonctionne.
Par exemple,
une émission sur la Chine, les milliards de la Chine, l'argent. Bon, ça nous paraissait. En tout cas, nous, on était très intrigués par ce qui se passe sur ce continent. Et certaines personnes au sein de la chaîne étaient réservées sur l'audience que ça pourrait faire. Disons, la Chine, c'est loin, etc. Ça a été une très bonne audience. Et manifestement, ça intéressait beaucoup de gens. Et en fait, nous, quand on réfléchit à un sujet qu'on va traiter dans le Capital, on part vraiment... évidemment, on réfléchit, on se pose toujours la question de savoir si ça va intéresser les gens. Mais d'abord, on essaye de savoir si nous, on est intrigués, si on a une curiosité sur ce sujet. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de cultiver avec cette équipe, c'est cette fraîcheur ou cette curiosité qu'on peut avoir sur un sujet.
Alors on va beaucoup parler du fond de cette émission, je voudrais quand même qu'on dise un mot de son image, hein, puisque c'est quand même Capital, une image reconnaissable entre toutes.
Sa méthode, toujours la même, s'adresser d'abord à l'office du tourisme pour gagner du temps et connaître les meilleures adresses de la ville. Mais ici la règle, c'est la neutralité, alors Antoine va tout tenter pour faire parler des fonctionnaires tenus au devoir de réserve.
Alors, tous ces plans, je ne sais pas comment on peut le dire, chaloupés, syncopés, quelle en est la raison? C'est parce que vous tentez éternellement de vous guérir d'un mal de mer inguérissable, dans une thérapie personnelle?
Alors, il est vraiment inguérissable dès que je rentre dans le port, déjà, j'ai mal de mer.
Ou alors, c'est pour empêcher les gens de zapper? Vous dites que si ça bouge, ils vont peut-être moins zapper? Quelle est la raison de ce qui est bien la marque de fabrique Capital?
Non, là, c'est vrai que ça donne un petit peu mal au cœur, franchement. Ouais. Et je ne pense pas que tous les plans.
Non, notre montage accentue un peu, mais on a tout pris dans Capital.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un principe dans le Capital, c'est d'emmener les gens, de les engager dans le reportage, de les emmener. Donc c'est plutôt une caméra en mouvement, c'est vrai, plutôt que statique, avec l'interview, bien voilà, vous restez là, bougez pas, la petite plante verte derrière, le truc. Bon, non, c'est vrai qu'on filme plutôt en mouvement. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est très accentué là.
c'est un peu accentué. Mmh. Très bien. Alors ça, c'était la marque de fabrique sur la forme. Sur le fond, moi, ce qui me paraît être le signe vraiment le plus fort, reconnaissable de votre émission, c'est qu'elle a brisé à la télévision le tabou de l'argent. C'est-à-dire qu'on y parle sans arrêt d'argent. On y donne beaucoup de chiffres, on y interroge sans arrêt les gens sur l'argent, et quand vos interviewés éludent la réponse, eh bien les journalistes de Capital la donnent.
En attendant, Marcel Dupré a fait une bonne affaire. Pour acheter ses terres au profit de Disney, l'État lui a payé le prix fort, même s'il ne veut pas l'avouer.
On ne saura pas le montant total alors?
Non, vous ne saurez pas le montant total. Et puis d'un côté comme de l'autre, vous n'aurez qu'un montant total brut, c'est tout. Ou parce qu'il faut enlever là-dessus les plus-values et l'impôt sur le revenu.
En fait, il a touché près de 14 millions de francs, soit 3 fois le prix du marché.
C'est combien votre chiffre d'affaires?
La loi ne nous oblige pas à le publier. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne le faisons pas.
En fait, le chiffre d'affaires du groupe est évalué à 20 milliards de francs.
Vous connaissez, vous, la valeur du dépôt qui est ici?
Non, ça ne me regarde pas, non. Non, c'est une affaire commerciale. Non.
La valeur du dépôt, nous l'avons estimée à 120 millions de francs.
Ça a plutôt bien marché?
Combien?
Ça a été. Ça a été.
Ça veut dire quoi, à peu près, en recette, là?
Oh, on se défend, ça va, c'est bon.
C'est-à-dire?
Pas de réponse. Comme les autres, ils n'aiment pas s'étendre sur les chiffres.
Alors ça, c'était le premier truc reconnaissable. Et à la recherche des recettes de Capital dans le visionnage dont vous parliez tout à l'heure, là, vous avez trouvé un autre, Colombe.
Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme des journalistes. à capital. Tout est super mieux, mais, super plus.
Le chat en parlait à l'instant, d'ailleurs.
La curiosité, la fraîcheur.
L'enthousiasme. Par exemple, quand on est journaliste à capital et qu'on parle de ce stylo rose, on va dire...
C'est un stabilo. Hein.
Un stabilo rose, on va dire, c'est le stabilo le plus rose du plateau.
Ah bon?
Oui, on va dire il est mieux, il est plus rose. Alors qu'on est journaliste à RSR Image, Arnaud Vivian, il va nous dire, oui, c'est un moyen rose qui est un peu moderne.
Arnaud Vivian sera capable de décrypter ce rose beaucoup plus brillamment que ça. Enfin,
c'est quand même plus intéressant quand on vous dit c'est le plus rose, le meilleur rose du plateau.
C'est capital, on vous dirait son prix.
Et si le stylo ne veut pas donner son prix aussi, ce que vous avez dit là, parfois, il y a des informations qu'on n'obtient pas. Quand on peut le savoir, même si les gens ne veulent pas le dire et que ça nous paraît intéressant, parce que ce n'est pas les chiffres pour les chiffres. Hein, les chiffres comme ça, s'ils n'ont pas de sens, ça n'a pas d'intérêt.
Pour revenir au stabilo le plus rose du plateau, ce n'est pas un hasard si Colombe employait un superlatif, c'est que dans ses visionnages, elle a trouvé beaucoup, beaucoup de superlatifs.
Direction la Côte d'Ivoire, l'un des pays les plus dynamiques de ce continent, et ce Français dirige la plus grosse usine du pays.
C'est le plus gros chantier d'Europe après le tunnel sous la Manche.
C'est le plus gros chantier du siècle dans un parc de châteaux.
Ce fut le cas pour l'un des plus gros diamants connus, le Koh-i-Noor.
C'est aujourd'hui l'établissement le plus cher de France.
Ce petit village est devenu l'une des communes les plus riches de France.
La Martinique est de loin l'île la plus riche des Caraïbes.
Fox Télévisions est la plus rentable des chaînes par satellite en Europe.
Qui sont ceux qui ont perdu le plus d'argent? Quels sont les flops les plus retentissants de la décennie?
La plus importante de France.
Du plus important des guides français.
Le plus grand catalogue français.
Le plus grand projet immobilier.
Le plus grand domaine skiable.
Le plus gigantesque d'Europe.
Le plus célèbre d'entre eux, c'est Père Dodu.
Malika Derbal, meilleure vendeuse de l'agence La Forêt à Versailles.
C'est le site touristique le plus fréquenté du Loir-et-Cher.
Ici, on vient boire pour 10 francs le café le plus haut d'Europe.
S'ils possèdent l'un des plus beaux manèges de la foire, ils ont aussi l'une des plus belles caravanes.
Le golf de Madame Green est un des plus vieux de la région.
Ça, c'est l'effet du montage. Il est absolument redoutable. Mais il y a plein de choses qui sont vraies. Quand on dit la chaîne la plus rentable de Murdoch, tout est vrai. Parfois, il y a une appréciation quand on dit l'un des continents les plus dynamiques. C'est vrai que ça peut pas.
C'est juste une. Très rapidement. C'est volontaire, c'est un effet recherché ou c'est inconscient?
Bon, c'est probablement... Non, d'abord, c'est factuel, souvent. Quand on dit, encore une fois, la chaîne la plus rentable de Murdoch, le plus gros chantier pour Euro Disney, bon, c'est qu'il y a des faits qui sont là. Alors, il est intéressant de les montrer et de les raconter. Alors, il y a peut-être, parfois, dans la présentation des choses, vous parliez de mon enthousiasme. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et parfois, de manière... Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, c'est un état de fait, en tout cas. Et dans la manière de présenter les choses, l'inconscient peut jouer.
Est-ce qu'il n'y a pas simplement la nécessité permanente de survendre l'économie qui est, encore une fois, un sujet peut-être d'un abord un peu difficile pour les gens, a priori? Est-ce que ce n'est pas un peu ça?
C'est vrai que quand vous êtes en plateau, dans le sommaire au départ, dans la présentation des reportages, vous essayez d'accrocher les gens, accrocher le wagon, parce qu'effectivement, je vous disais tout à l'heure, dans le capital, on emmène les gens quelque part. Mais là où je ne suis pas d'accord avec survendre, c'est que je fais très attention à rendre effectivement un reportage attractif dans la présentation pour que les gens soient intrigués et envie d'aller voir ce qu'il y a. Et d'abord parce qu'il nous paraît que ce qu'il y a à voir est vraiment intéressant. Et si on survendait, les gens ne viendraient pas. Il dirait, capital, finalement, c'est de l'esbrouf, il nous met ça en plateau, et puis derrière, aucun intérêt.
C'est vrai qu'ils sont fidèles.
Non seulement ils sont fidèles, mais l'audience, elle augmente. Et sur une émission qui dure 100 minutes, vous avez quand même 80 minutes de reportage.
Absolument.
90 minutes de reportage. Alors, donc la présentation en plateau, c'est une chose, les reportages, c'est ça.
Précisément. Alors, comment sont fabriqués les reportages capital? On fait comme vous, nous sommes allés enquêter dans les coulisses de capital, je pourrais dire, si je lançais
dans les coulisses de capital.
Si je lançais un sujet capital, Dorothée Costenoble.
Mais les coulisses intéressent les gens en fait.
Parce
qu'il y a l'apparence des choses et puis il y a ce qu'il y a derrière.
Donc. On va le vérifier tout de suite. Dorothée Costenoble et Jean-Marie Barrère sont allés suivre la préparation d'un reportage et c'est un reportage lui-même qui commence comme il se doit par un superlatif.
Nicolas Valode, 26 ans, c'est le plus jeune journaliste de Capital, l'émission phare de M6. Capital, c'est ici, dans cet hôtel particulier du 8e arrondissement. À la rédaction, 10 journalistes. Pour eux, un seul objectif, accrocher le téléspectateur sur un sujet abstrait, l'économie.
pour ça, vous ne faites pas de soucis.
Leur outil de travail, le téléphone. C'est la première étape de chaque reportage. Le moment où il va falloir dénicher les meilleurs personnages et les meilleures séquences qui permettront de raconter une bonne histoire.
Nous, on cherche à raconter l'histoire.
Pour l'émission sur les produits de l'an 2000, Nicolas Vallotte doit raconter la saga de la voiture électrique. Et à Capital, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la voiture électrique est-elle un flop ?
Je pensais qu'il y avait un lobby assez important des pétroliers qui ne voulaient pas que la voiture électrique se développe. En fait, il s'avère que... En fait, non. C'est pour ça que c'est important de consacrer beaucoup de temps à l'enquête, c'est que bien souvent, ces a priori ne se vérifient pas quand on appelle beaucoup de gens, quand on essaie de chercher des informations, croiser d'autres informations. Il y a beaucoup d'a priori qui s'infirment.
Ils possédaient une tonne de fer.
Pour éviter la moindre erreur, une méthode bétonnée. Sur 5 semaines de travail, on enquête au moins 2 semaines complètes avant même de sortir la caméra. Un passage par l'écriture jugé obligatoire.
Regardez, alors là c'est la liste, ça c'est la liste des contacts pour la voiture électrique. Et voilà, c'est à peu près ça, hein. Toute l'enquête résumée que j'ai donnée à mon rédacteur en chef. J'en ai tiré donc finalement un roman, quoi.
Les copies atterrissent dans le bureau des rédacteurs en chef, où sont supervisées l'ensemble des émissions en cours. Mais pour tout le monde, l'homme à convaincre, c'est lui. Ici, on l'appelle Le Grand. Emmanuel Chin est l'homme le plus rapide de Capital. Depuis qu'il est directeur de l'information de M6, son problème, c'est le temps.
La réunion sur les produits en 2000, on l'a fait à 4h30, hein, c'est ce
normalement 4h30.
D'accord, ok. Très bien.
Je continue à garder quand même, je dirais, la moitié de mon temps mental sur Capital, facilement. Et puis en temps physique, je dirais les 2/5, quoi.
Principal souci d'Emmanuel Chin, être partout à la fois et réussir à tout faire. Pourtant, il reste le monsieur idée de Capital.
Ouais, par exemple, voilà, c'est ça. Ça, c'est la sacro, c'est la pile des dossiers jaunes, voilà. Sommaire au pluriel. Alors là, c'est chaque fois que je vois des idées qui m'intéressent, je me dis, tiens, ce serait intéressant de venir de creuser ça, etc. Il y a des courriers de téléspectateurs, parfois. Il y a parfois des notes manuscrites de ma part. J'ai rencontré quelqu'un, je croise quelqu'un qui me parle d'un truc, je trouve ça intéressant. Je note 3 choses sur un papier, hop, je le glisse dans la chemise jaune. Et ça permet... Ça, c'est pas mon unique et seul boîte à idées, je dirais. Mais ça nourrit un peu mon inspiration aussi.
À 16h30, une réunion est prévue avec les 3 rédacteurs en chef pour donner le feu vert à plusieurs reportages.
C'est un sujet qui a une autre dimension, à mon avis, tu vois.
Tout le monde a l'habitude, avant d'obtenir l'avis décisif du chef, il va falloir attendre.
C'était totalement... Ok, bon, je vais l'appeler. D'accord.
Tu l'appelles ? Tu... Ok.
En fait, le véritable problème avec Emmanuel Chin, c'est de commencer.
Nous allons y aller. Tiens, salut Mathieu. Et toi ?
Bon. T'as pas l'habitude de voir, tu vois. Bon,
objectif de la réunion, valider les propositions de tournage pour l'émission sur les produits de l'an 2000. Et c'est maintenant. Enfin, presque.
Mais parce que c'est ça qui est assez habile dans ton sujet, c'est que tu...
Valider, bétonner, clouter, des mots-clés à la rédaction de Capital. Avant de lancer les reportages, tout est pesé, mesuré, calculé.
On se donne 1 heure maximum.
D'accord. La voiture électrique, le bon morceau.
C'est le gros morceau.
Non, je ne sais pas si c'est le gros morceau. En tout cas, c'est une enquête intéressante.
Pour le reportage de Nicolas Vallotte, tout va se décider maintenant. Et comme pour les autres sujets, Emmanuel Chin va donner son avis sur la manière de raconter l'histoire. On appelle ça un angle.
De montrer quand même tous ceux qui y ont cru, d'identifier les raisons pour lesquelles ils y ont cru, comment ils ont été encouragés peut-être par les pouvoirs publics, de ressortir peut-être des séquences d'archives des pouvoirs publics. Il faut bien dire aussi que la voiture électrique, il faut dire si c'est le cas, puisque c'est ce qu'on m'a dit, moi, quand Valode m'en a parlé, c'est que c'était une exception française.
La question de la voiture électrique est réglée. À Capital, on ne déteste pas les débats, pourvu que le sujet soit toujours très concret. Ainsi, à propos de la dernière visite d'Emmanuel Chin au supermarché.
À l'heure du déjeuner, là, j'ai fait mon truc, et il y avait un type qui ouvrait les sacs et qui me mettait, pour que la queue s'écoule plus vite, et qui mettait des trucs dans les sacs en plus. Non, mais c'est vachement pratique parce que t'es toujours, tu payes en même temps ta
truc. Moi, j'aime pas les types qui te mettent les produits dans le sac. C'est pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce qu'ils vont très vite et que. Et puis, si tu veux, ils te mettent 3 objets dans un sac et ça y est, ils le sortent, ils te le mettent dans ton caddie. Donc, alors que moi, quand je le fais, j'ai tendance à mettre bien bourrer le sac pour pas avoir 50 000 ans à porter, si tu veux.
À la rédaction, le flair et les qualités du grand font l'unanimité. même s'il n'est pas toujours facile d'en placer une.
C'est un problème tout simplement commercial. Autrefois, un supermarché, d'accord, on n'achetait que de la bouffe. Ils se sont mis à tout vendre, c'était les seuls, ils avaient une force de frappe, machin, donc ils vendaient un vélo pas cher, un jouet,
d'accord,
pas cher. Mais on y va rapidement, tu vois.
D'accord.
Tac, tac, ici.
D'accord. En illustration, avec des infos extrêmement claires, extrêmement simples, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de séquence là qui nous permette de rentrer.
Fin de la réunion. Nicolas Valode et son équipe vont à présent affronter le tournage et ses multiples pièges, bien connus de la hiérarchie de l'émission.
Et dans les entreprises, la réaction, on arrive. En général, ils sont quatre parce qu'ils ont fait venir le délégué du Sud-Ouest, le directeur général de ceci, de cela. Ils ont des cravates tirées à 16 épingles. Ils sont passés chez le coiffeur la veille. Et on arrive dans un hall en marbre avec des plantes vertes. C'est terrifiant. Et ils disent, on va tout de suite passer au bureau là-haut pour voir les questions. Il y a des tasses de café, il y a des plantes vertes, et on est là, et le type finit par nous dire « Mais vous savez, toutes ces questions, j'ai là la plaquette de notre entreprise, avec de belles photos, que vous pouvez d'ailleurs prendre en filmé, vos photos, et tout se résume dans ce graphique, vous voyez, de la croissance qui monte, quoi. »
Pas de plaquettes ni de plantes vertes à Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord. Pour illustrer une expérience de voiture électrique en libre-service, Nicolas Valode et son équipe ont choisi d'aller filmer un utilisateur, Monsieur Paul. C'est le personnage idéal, il n'a aucun intérêt dans l'affaire.
Voilà, simplement,
et pour souligner l'aspect spontané de l'interview, Monsieur Paul sera filmé à la manière capitale, en marchant. Mais une caméra de capital attire toujours ceux qui ont quelque chose à vendre. Depuis un bon moment, un commercial tourne autour de Nicolas Valode pour le persuader de filmer son prototype. Cette fois-ci, il tente sa chance.
Monsieur, moi je suis à Chapaille avec Mme Bénéjean, donc elle s'est posé la question, c'est devenu un prototype, vous savez, une voiture prototype. Vous souhaitiez en voir une, non? Sinon, on va la chercher, on l'a jusqu'à 11h30 pour aller rechercher.
C'est les futures voitures,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est ça, c'est celle qui
nous marche. Alors, ce que vous avez dit à Mme Bénéjean, oui, c'est que pour nous, c'était pas quelque chose d'essentiel pour le reportage. Là, on est en train de montrer en fait assez simplement, assez concrètement, oui, le reportage, comment ça fonctionne.
D'accord.
Ici, cette expérience, le Traxitel. Donc, on filme les voitures qui sont actuellement.
Bien, ouais. Qui sont en service actuellement.
Qui sont en service actuellement, voilà.
D'accord.
En tout cas, merci de nous proposer.
Non, mais je vais vous proposer, je crois que Madame Bénéjean vous en avez parlé au téléphone.
Quelques minutes plus tard, nouvelle embûche pour Nicolas Valode. Il doit interviewer la responsable du projet sous l'œil vigilant de l'attaché de presse.
Il n'est pas rentable pour un exploitant de mettre des bus parce qu'il n'y a personne. Par contre, une voiture peut être intéressante.
Le rôle de l'attaché de presse, encadrer l'équipe pour éviter tout dérapage. Une contrainte dont le journaliste cherche à se débarrasser.
De toute façon, je reste jusqu'à 2-3 heures.
D'accord, mais ne restez pas pour nous, hein, parce que c'est bon, en fait, c'est gentil, mais on n'a pas besoin de...
Parfait.
Ben merci bien. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, messieurs.
Vous voyez, quand on arrive comme ça, si derrière nous, il y a une attachée de presse, un officiel, un patron et tout, si on arrive et qu'on va interviewer un employé, il se retrouve avec une caméra. Déjà, c'est impressionnant d'être face à une caméra. Et en plus, ses patrons, ses trucs, etc. Donc, il est très impressionné. Il sera plus naturel, quoi.
Retour à Paris, chez un concessionnaire du 15e arrondissement. Un détail a éveillé la curiosité de Nicolas. Certains garagistes prétendent vendre des voitures électriques et pourtant, ils n'en font pas la promotion. Nicolas les soupçonne de mauvaise volonté parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent sur les réparations. C'est ce qu'il va essayer de faire dire à ce vendeur de voitures. Mais d'emblée, l'homme se révèle coriace.
Et vous les revoyez pas ici en réparation alors, les voitures électriques?
Non, pratiquement pas.
C'est pas très intéressant pour votre activité de réparation de...
C'est intéressant d'avoir des clients qui sont satisfaits et qui n'ont pas à revenir rouspéter après la qualité de la voiture que nous avons vendue.
Mais pour votre activité d'atelier là, c'est pas...
Pour une activité d'atelier, mais nous notre rôle, ce n'est pas, on ne vit pas avec la rentabilité que nous avons sur un atelier.
Donc vous n'êtes pas inquiet pour votre, même si le marché de la voiture se développe, pour votre atelier de réparation?
Non, au contraire, on en vendra plus, ça sera dans un autre contexte, mais... Non, pas d'inquiétude.
Le concessionnaire ne répondra jamais à la question. Nous revoici à la rédaction de Capital. Au total, 24 cassettes, soit 8 heures de film, dont il faut tirer un reportage de 15 minutes.
Il faut énormément resserrer. Il y a un problème, c'est que dans ce sujet, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de séquence.
Déjà en moyenne, 41 chaînes.
Faire, défaire, refaire, c'est le lot de toute émission de reportage. Mais à Capital, le rythme est élevé. Tous les 15 jours, c'est environ 5 reportages d'un quart d'heure qui sont fabriqués. Le succès de Capital a conduit à la création de ses productions. Filiale à 99% d'M6, chiffre d'affaires 40 millions de francs. Au total, 30 personnes qui travaillent sur Capital et 3 autres émissions, Mister Biz, Plus vite que la musique et Produit Star. Si Capital a construit son succès en brisant le tabou de l'argent, paradoxalement, les salariés ne connaissent pas le coût de leur propre émission.
J'imagine que ça doit tourner dans une fourchette d'au moins 500 000 francs, j'imagine.
Je sais que la marge du FIEC tourne autour d'1,3 million l'émission. C'est à peu près le même genre d'émission, je pense que ça coûte à peu près pareil.
Il y a un personnage clé dans la maison pour répondre à tout ça, en dehors d'Emmanuel Charles, c'est Nicolas Copperman.
Non, mais que ça monte à 1,300.
Nicolas Copperman, c'est lui. Directeur délégué de ses productions, il est le bras droit d'Emmanuel Chin, le monsieur chiffre de Capital. Mais à Capital comme ailleurs, quand on monte dans la hiérarchie, on pratique le discours d'entreprise.
Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le budget de l'émission Capital ?
De Capital, non, c'est un chiffre que M6 décide ou non de communiquer.
C'est les journalistes à Capital, ils sont payés combien ?
Ils sont payés sur des bases de marché, je pense. Il n'y a pas un tarif Capital, ça dépend de leur expérience, ça dépend de leur expérience dans le métier, du temps qu'ils ont passé avec nous. On n'a pas une grille.
Vous pouvez nous donner Capital. Une fourchette à peu près de...
Non, je préfère que vous voyez ça directement avec eux, en fait. C'est ce qui est le plus simple.
On va leur demander.
Voilà.
Nous avons demandé à Nicolas Valode, pour lui, c'est 13 600 francs bruts par mois. Pour les plus anciens, cela peut monter jusqu'à 25 000 francs. Quant à l'émission elle-même, elle coûte 1,3 million. On estime qu'elle rapporte deux fois plus à M6 en publicité.
Voilà, alors vous nous demandiez quels sont nos secrets de fabrication, et je crois qu'ils tiennent en un mot, c'est l'approche globale client. Hein, c'est-à-dire que nous avons des téléspectateurs que nous considérons comme des clients et nous voulons leur apporter une qualité maximale.
Ne vous y trompez pas, c'est la langue de bois des autres entreprises que François Ducroux imite.
Bon, ben, y a encore du boulot là. Hein.
Il passe aux commandes pour le montage final et c'est un reportage prêt à être diffusé qui atterrit sur le bureau d'Emmanuel Chin. Dans le reportage diffusé dimanche dernier, vous n'avez vu ni Monsieur Paul, ni le vendeur de voitures, ni la directrice de société que nous avions suivie. Tous trappés, il ne reste que 7 images. Le prix de ces quelques secondes, une journée de tournage, soit 12 000 francs. On leur a préféré au montage cet autre utilisateur, plus à l'aise devant la caméra. Et à défaut de trouver un complot chez les concessionnaires, Nicolas Valode pointe du doigt l'État et ses promesses non tenues.
Je me suis pas ennuyé et j'ai appris des choses. Voilà, j'insiste sur la deuxième chose, j'ai appris des choses. Donc c'est un relativement bon sujet Capital. C'est un bon sujet Capital.
Bon, je vais pas vous demander si vous avez appris des choses en regardant celui-ci, ni si c'est un relativement bon ou un bon sujet Capital ou Arrêt sur image, mais est-ce que vous validez par exemple, comme on dit chez vous, validez hein, tous les chiffres que nous avons donnés sur le coût de l'émission, sur ce qu'elle rapporte à la chaîne
Sur ce qu'elle rapporte à la chaîne, ça j'en sais rien. Et franchement, je ne
sais rien.
Non, j'en sais rien. Ben, j'en sais rien parce que là,
c'est paradoxal,
ce qu'elle rapporte à la chaîne, ce sont les recettes publicitaires qui sont comptabilisées par la régie publicitaire, qui est complètement séparée de la production d'émission. Moi, mon boulot, c'est d'être journaliste, de fabriquer l'émission, d'être producteur
pas,
de l'émission.
En tant que PDG, dirigeant d'une filiale d'M6, de savoir combien votre émission rapporte.
Dirigeant d'une filiale, c'est une filiale à 99,99%.
Pardon, on avait oublié de dire.
C'est 100% M6. J'ai une action, j'ai 10 francs, pour pouvoir effectivement être mandataire social et diriger cette filiale de production qui permet d'avoir une autonomie de coût, de gestion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la régie publicitaire, c'est autre chose. Et je trouve ça assez sain, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de mélange entre la régie et la production de l'émission.
Je ne comprends pas bien. Vous,
la régie.
C'est-à-dire que ça ne vous intéresse pas ou ils n'ont pas voulu vous répondre à la question quand vous leur avez posé.
Ça m'intéresse. Ça m'intéresse assez, en fait. Et je vais être très honnête. Moi, il m'arrive de croiser la directrice de la régie publicitaire dans l'ascenseur. Parce que, par exemple, il y a un sponsor, SFR, qui est sponsor de Capital. L'autre jour, ils ont renégocié, paraît-il, le contrat. J'ai combien pas voulu me dire.
Je vais vous donner une idée. Ouais. Faut faire une émission Capital sur M6.
Ouais.
Comme ça, vous aurez la réponse.
Non, mais si vous voulez, à la limite, moi, je suis pas intéressé. J'ai pas d'intérêt. Je veux dire que ça rapporte plus. Bon, c'est l'intérêt pour la chaîne. Moi, j'ai pas d'intérêt direct à ça, si vous voulez. Moi, ma seule.
Non, mais vous pourriez avoir un intérêt journalistique.
Oui, un intérêt journalistique. C'est vrai. Mais bon, vous savez, il y a tellement de choses à. Bon, c'est vrai que je n'ai pas. bon, je pourrais.
Bon, Colombe, si vous voulez bien révéler à Emmanuel Chin combien le contrat de sponsoring SFR rapporte.
Vous savez,
j'ai enquêté. Alors, ni SFR n'a voulu me répondre, ni l'agence de publicité, ni vous. Alors, j'ai fait une espèce d'estimation.
Bah, lui, puisqu'il ne le sait pas, il vient de nous le dire.
Alors, j'estimais en gros 150 000 francs. C'est-à-dire que
combien?
C'est 150 000 francs
par émission.
Par émission. Sans les ventes promo.
Je crois qu'en fait, ce qu'ils vendent, ce que la régie publicitaire qui vend de l'espace vend, le pack shot au début et à la fin. À mon avis, c'est un peu plus parce que si elle vend ça, comme c'est une régie performante, à mon avis, elle le vend plus cher. Parce que ce qu'elle vend aussi, c'est qu'elle vend les bandes annonces de Capital.
Oui, ça, c'est en plus. C'est sans la bande annonce.
Ça me regarde pas. Mais ça m'intéresse, mais pas plus que ça non plus. Je veux dire par là qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Voilà.
Alors, si nous nous sommes permis comme ça de pénétrer dans vos coulisses, d'aller vous taquiner.
Alors, par contre, vous vouliez valider effectivement le coût de l'émission. Oui. Bon, ben voilà, il était validé. Je tiens à dire parce que quand Nicolas Koppermann, qui est le directeur de production, ne souhaite pas donner les salaires, je crois que c'est aussi une forme de respect pour les journalistes. En disant, demandez-leur et si vous leur demandez, ils vous le diront. Et je crois qu'ils ont dit de manière très transparente. Moi, je suis très transparent sur les coûts de Capital. Les recettes, encore une fois, c'est la régie. Les coûts,
Les recettes ne vous concernent pas. Alors que beaucoup de producteurs, d'animateurs d'émissions à succès il y a quelques années ont fondé leur propre maison de production, on l'a vu sur d'autres chaînes. Est-ce qu'à un moment, vous êtes posé la question vous-même de savoir si vous deviez voler financièrement de vos propres ailes?
Je me suis un petit peu posé la question. Je me suis très peu de temps posé la question. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile de consacrer toute mon énergie. J'avais pas envie d'être pollué, entre guillemets, dans ma manière de fabriquer l'émission par des considérations économiques, d'argent, voilà, moi je suis salarié d'M6, et je trouvais plus intéressant de consacrer toute, mon énergie à la fabrication de l'émission. Donc j'ai pas souhaité monter une société de production, vendre l'émission et rentrer dans ce type de rapport de force avec une chaîne qui m'a fait confiance et avec qui j'ai envie d'avancer. Voilà.
Très bien, si nous nous permettons de vous titiller ainsi sur vos coulisses, c'est parce que vous titillez les autres. Tout au long des sujets que vous diffusez sur leurs coulisses, un petit échantillon.
Assemblée nationale, Sénat, les coulisses du pouvoir législatif.
Les coulisses du poulet moderne, celui que vous mangez tous les jours, les voilà. Et pendant que les touristes bronzent sur le pont supérieur, en coulisses, toute une armada de personnel assure l'intendance.
Le porte-parole du groupe Kirsch va nous emmener dans la salle du Trésor. Fermée à double tour, on l'appelle aussi la cathédrale.
Il y a aussi les pièces que d'habitude on ne visite pas. Nous avons demandé à voir le bureau du président.
Voilà. Voilà le bureau du président.
Il approvisionne l'écurie en pièces détachées. Elles sont toutes hors de prix.
On va aller voir les pièces de sous-ensemble.
C'est derrière ces barbelés, à l'abri des regards indiscrets, que Carrefour pense avoir trouvé la contre-attaque.
Mais moi, c'est bien gardé.
Ah oui.
Donc la jour et nuit ?
Jour et nuit.
Et qu'est-ce qu'il y a à garder là-dedans, c'est précieux ?
Jean-Paul Lorenzo a dirigé les recherches. C'est la première fois qu'il laisse entrer une caméra de télévision.
Alors, les deux dernières images de ce montage, la grille et effectivement ce monsieur là qui rentre dans une espèce de chambre forte, ont été diffusées dimanche dernier dans l'émission sur les produits de l'an 2000. Et ce sont des images qui vous ont arrêté, Arnaud.
J'adore cette image de grille puisque, comme vous l'avez pu le remarquer, elle est très très bien gardée. La grille est à peu près haute comme moi, d'ailleurs pas très grande, vous voyez. Et le type a un tout petit trousseau de clés, minuscule, vous voyez, on voit assez bien. Et donc, pour M6, ou pour Capital plus exactement, c'est un lieu très protégé. Hein, on peut voir, et donc voilà, il y a un vieux barbelé qui
traîne. Non, oui.
Mais l'idée, c'est quand même de communiquer ça, que Capital a réussi à pénétrer dans un lieu très très bien gardé et a réussi à convaincre les gens d'être filmés pour la première fois. Il y a souvent, on a entendu dans le montage, souvent le mot « première fois » qui revient. Alors évidemment, c'est une question
de… Là, c'était un fait. Oui, en fait, c'était la première fois, effectivement, que…
Mais c'est... Bon, c'était pas tout à fait la première fois, mais c'est un autre sujet. Alors, Arnaud, oui.
Donc, je me demandais comment vous arriviez aussi facilement, finalement, à les convaincre, puisque chaque semaine ou chaque diffusion de Capital, il y a toujours une première fois comme ça, quelqu'un qui a décidé de se laisser filmer.
Oui. C'est-à-dire, vous ne vous posez pas seulement la question, vous avez un embryon de réponse, peut-être.
J'ai un petit embryon de réponse. Je me disais que peut-être ces marques, et notamment, par exemple, celle-là, une marque de supermarché, on sait que les supermarchés n'ont pas le droit de faire de la publicité à la télévision, donc ça doit être assez agréable pour eux d'être être cité et longuement cité en fait dans ce reportage, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire de la publicité à la télévision. Et donc je pense que c'est parfois peut-être assez simple de les convaincre. En tout cas, c'est eux qui maintiennent.
C'est pas si simple du tout. Ça pose toute la question
de l'enquête économique. Ouais. Au fond, est-ce que les marques qui vous accueillent n'ont pas tout intérêt à ce que vous parliez d'elles en bien ou en mal, peu importe. Est-ce que c'est pas au total toujours de la promotion gratuite?
Non, mais on n'est pas naïf. À chaque fois qu'une entreprise nous ouvre ses portes.
Dans le commentaire, un peu.
Pendant le commentaire de cet exemple-là très concret que vous, sur lequel vous insistez, celui de Carrefour avec sa grille, bon, fermée, etc. C'est vrai que on avait appris qu'il y avait, moi j'ai été surpris par ça, je ne le savais pas, qu'il y avait un hypermarché un peu fantôme où il n'y avait aucune consommation, qui était un hypermarché fermé, interdit au public, où ils avaient investi 20 millions de francs, je crois qu'on le dit un peu plus tard dans le reportage, pour faire des tests sur l'hypermarché de demain. Bon. Quand on a appris ça, on a voulu le filmer. Bon, on a voulu le filmer, c'était une démarche de notre part. C'est pas Carrefour qui est venu nous dire, filmer, etc. Bon, on a eu un petit peu de mal. Au départ, ils ne voulaient pas. Alors après, ils nous ont dit que c'était la première fois qu'ils laissaient une société de télévision filmer leur entrepôt. Alors depuis, il y a eu une caméra de Canal+, je crois, qui l'a filmé également. Alors évidemment, quand ils nous ont dit ça, on suppose, on n'est pas naïf, on se dit toujours quel est l'intérêt, effectivement. Forcément, ils ont envie de montrer qu'ils sont bons, qu'ils sont dynamiques, qu'ils montrent des produits nouveaux. En même temps, ce qui est important, c'est ce qui ressortait
de l'enquête.
Je ne sais pas. C'est parce que si vous poussez le montage jusqu'au bout, vous entendrez plusieurs choses. Ce qui est important ensuite, c'est que le journaliste est de la distance. Ouais. Le journaliste est arrivé, il se pose la question, il dit, a priori, je crois me souvenir de mémoire, ça, il dit, a priori, vérifions si effectivement c'est si surprenant que ça. Il arrive, il dit, rien de très révolutionaire. Ouais. Il voit un grand hypermarché, il dit, rien de très révolutionnaire.
Non seulement il met des réserves,
il pose des questions, il va voir le truc. C'est important de montrer que nous ne sommes pas, si vous voulez, nous on fait notre boulot, qui est à partir d'une curiosité qu'on a.
C'est pas très méchant pour Carrefour, malgré tout.
Non, mais là, alors si vous voulez, là, c'est pas très méchant. Un, on montre effectivement, on montre que c'est pas tellement révolutionnaire. Ensuite, il y a un fait précis, c'est que ces nouvelles méthodes, ils les ont testées dans un truc et que semble-t-il, le fait de mettre des grandes gondoles. Non, c'est pas révolutionnaire, mais que ça fait vendre plus. Alors, au moins, ça fait vendre plus. Mais c'est un fait. C'est intéressant. Moi, j'ai appris quelque chose. C'est qu'en mettant les produits en libre service, en mettant des grands trucs, ça fait vendre plus.
Emmanuel Chin, vous parliez tout à l'heure, pardonnez-moi, vous parliez des réserves et des distances que les journalistes prennent dans les reportages, et c'est vrai qu'on en entend
beaucoup de réserves.
Mais ce qui est tout à fait frappant, et ce que Colomb a vérifié en appelant plusieurs des firmes qui vous ont accueilli, c'est que même quand les reportages, les enquêtes comportent des réserves, les effets sont toujours bénéfiques pour les firmes qui vous
Par exemple, Domino's Pizza, mais ils ne le sont pas aussi.
Est-ce que Colomb peut mentionner, pardon, son appel à Domino's Pizza, non pas pour commander une pizza, mais dans ses fonctions d'enquêtrice?
Mais alors, selon eux, ce reportage qui était plutôt négatif sur les conditions de travail a fait augmenter leurs ventes le jour de la diffusion du reportage de 10 à 20% selon les lieux de vente.
Alors qu'on disait que les livreurs étaient exploités, qu'il fallait qu'ils aillent très vite, que c'était très dur.
Quand j'ai appris plusieurs entreprises, je n'ai pas trouvé une seule qui m'ait dit « Ah non, ça a été dur pour nous après. »
Non, mais il y en a eu. Non, mais attendez, je vais finir là-dessus. Les hypermarchés. Pour un exemple de Carrefour, nous, on montre les choses telles qu'elles sont. Si après, elles ont des effets bénéfiques pour elles, tant mieux. S'ils sont moins bons et mauvais, tant pis. Je veux dire, c'est les choses telles qu'elles sont. Et souvent, je veux dire, c'est un travail de convaincre les entreprises d'ouvrir leur porte dans un pays où elles n'avaient pas tellement l'habitude de le faire, d'accepter qu'un regard qui, de toute évidence, est jugé par l'ensemble des gens comme pas complaisant, d'accepter que ce regard puisse être porté avec, parfois, effectivement, tant mieux si c'est bénéfique pour elles à certains moments, parce qu'il y a des choses bien aussi, il faut le dire, quand c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien, quand c'est bien, il faut le dire. Nous, on montre les choses.
Très bien.
Et sur Carrefour, on avait fait 3 semaines avant ou 1 mois avant, un sujet sur où on montrait qu'il y avait des choses qui étaient remballées dans les hypermarchés, de la remballe de viande, qui avait de la viande, vous enleviez le paquet, date limite était passée, et on le réemballait avec une nouvelle date limite plus lointaine. Donc c'était un tromperie pour le consommateur. Et là, je peux vous dire qu'on ne s'est pas fait des copains dans la grande distribution.
Très bien. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Arnaud Vivian s'est arrêté, c'est l'histoire d'un coursier qui va chercher des cartes grises.
Dans sa mallette, un formulaire de demande de carte grise. Il est allé le chercher ce matin chez un particulier. Normalement, obtenir une carte grise, ça prend une demi-journée. Avec Alexandre, ça va aller beaucoup plus vite.
Vous passez pas comme un client normal ?
J'ai pas de numéro et j'ai pas de guichet.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je passe avant tout le monde.
On appelle ça un passe-droit. Ce jour-là, il va doubler une quarantaine de personnes au guichet.
Alors, combien de temps ?
Oh, 5 minutes.
Pas 5 plus. 10
minutes maximum, le temps de passer après à la caisse.
Ouais. Et alors, vous avez tout ?
Pour ce service rapide, le client a payé 350 francs en plus du prix normal de la carte grise.
Très bien. Alors là, il y a une séquence qui, me semble-t-il, est très significative du ton général de votre émission. C'est-à-dire que vous racontez une anomalie, un abus, hein, ce passe-droit, là, ce coursier qui double tout le monde dans la salle d'attente, mais vous ne le dénoncez pas. Et c'est vrai que vos reportages, vos enquêtes sont très rarement dénonciatrices, au point qu'on se demande, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ? Vraiment, personnellement,
bien
vous ?
Bien sûr, il y a des choses qui me choquent, mais ça ne regarde que moi.
Qu'est-ce
ça
vous...
regarde que moi. Je veux dire par là que nous, effectivement, nous montrons les choses. Nous essayons de le faire de la manière la plus honnête et la plus rigoureuse possible. Vous avez vu tout à l'heure 8 heures de rush pour 15 minutes de reportage. Donc, toute l'enquête de Valode,
etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vos enquêtes sont excellentes. Vous l'avez vu 3 fois, 4 fois, 5 fois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est vrai qu'on s'interdit.
On ne vous a pas dit à HEC que survendre pouvait être parfois contre-productif.
Non, mais parce que je réagis aussi à ce que vous dites. Non, simplement, c'est vrai que, bien sûr, il y a des choses qui me choquent. Je suis pas un être...
Mais vous considérez que ça ne doit pas se retrouver dans les
non,
reportages et
ouais,
les enquêtes.
Je considère ça pas... Et puis je considère surtout que cette séquence est là. Vous avez été choqué par le passe-droit, il y en a un autre qui a dit le type est malin, il y en a un autre qui... Moi, la seule question qui m'intéresse, c'est de savoir ce passe-droit, est-ce qu'il a payé pour ça ou pas. J'ai demandé au journaliste, je lui ai dit, est-ce que tu as essayé de savoir ce qu'il a... Bon, il a été au bout de son questionnement là-dessus, et il a apporté toutes les informations qu'il avait ensuite aux téléspectateurs de juger. Et chacun jugera en son âme et conscience à sa façon.
Mais ça, c'est... Je suis très embêté, parce que je trouve que, comme vous l'avez dit c'est souvent ici, l'émission est très bien faite. C'est vrai qu'elle est très très bien faite. Le problème, c'est que quand je la regarde, j'ai l'impression de connaître, comme disait Oscar Wilde, le prix de tout et la valeur de rien. Quand je vois ça, je suis extrêmement choqué. Je comprends pas comment...
Ça n'a pas de valeur pour vous, par exemple, ça. Quand vous voyez ce coursier, vous accordez pas... Ça vous choque peut-être, ce passe-droit, ça vous...
Ah oui, ça va
vous toucher. Ça a de la valeur. Mais une émotion que vous pouvez avoir à ce moment-là, ou un sentiment que vous pouvez avoir à ce moment-là, ou une information.
Ce qui choque Arnaud, c'est que vous ne soyez pas choqué.
C'est que vous ne soyez pas choqué. Ouais, mais pas comme si l'économie était un truc en soi et que le fait de créer un emploi, par exemple, était plus important que tout. Vous ne pouvez pas quand même séparer l'économie de la vie. Je veux dire, le fait que, par exemple, les citoyens...
Je crois que Capital fait tout sauf séparer l'économie de la vie.
Mais quand les citoyens ne se retrouvent plus égaux devant les administrations parce qu'un coursier a un passe-droit, c'est quand même très très grave. C'est un des piliers de la République qui vole en éclats. Ça va créer à terme une société à deux vitesses. Alors, comment vous pouvez, comme ça, le laisser passer tranquillement sans être choqué ? Je ne comprends pas.
Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas choqué ? Mais c'est vrai que le reportage il montre la chose telle qu'elle est, dans sa crudité, je dirais, dans sa crudité, dans sa réalité, enfin celle qu'on a saisie. Et puis ensuite, à chacun, je dirais, d'apporter son jugement. On pourrait faire une autre émission, effectivement de débat. Aujourd'hui, Capital est une émission d'enquête, de reportage, et c'est vrai que on ne prend pas parti à l'intérieur des reportages. Nos sentiments personnels, nos révoltes personnelles, ou pas, je dirais que ça n'intéresse pas le téléspectateur.
Très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut regarder vos émissions chaque semaine sans savoir, par exemple, quelles sont vos convictions. Je sais pas
moi, j'en suis ravi.
Très bien. par exemple.
Non, mais j'en suis ravi. Ça m'ennuierait beaucoup.
Mais vous avez réussi, par exemple, on peut regarder.
C'est une forme d'indépendance aussi, je vais vous dire. C'est une forme d'indépendance. Enfin voilà.
Moi, j'ai envie de vous demander, là, je vous ai en face de moi, pardonnez-moi, j'ai envie de vous demander, exemple tout bête, sujet économique du moment, les 35 heures.
Oui.
Vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Pardonnez-moi de vous dire ça parce que je trouve que vous êtes un. Enfin non. Je trouve que la question est mal. Enfin non,
Est-ce que vous êtes favorable ou opposé au projet de loi qui va bientôt arriver en discussion au Parlement sur les 35 heures ? De façon un peu plus subtile de la poser.
Je réserve ma réponse au secret de l'isoloir au moment où j'aurai à voter.
Très bien, c'est votre réponse.
Mais c'est un sujet complexe.
Voilà, un tout petit peu langue de bois, mais après tout, c'est votre droit de citoyen. Une dernière question qui nous a évidemment interrogé, vous l'imaginez bien, et sur laquelle nous avons enquêté, c'est que vous produisez animer cette émission sur M6, qui est une filiale à 34% d'un grand groupe industriel français qui s'appelle la Lyonnaise des Eaux. Alors, de quelle manière pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas parler de la Lyonnaise des Eaux ? Alors, Colombe a enquêté, elle a trouvé plusieurs sujets effectivement dans lesquels vous traitez du câble, le câble dans lequel la Lyonnaise a des intérêts à des intérêts importants. Vous en traitez avec distance, avec exactement le même ton d'ailleurs que sur tout autre sujet. Mais il y a un sujet que vous n'avez jamais abordé, c'est le sujet du problème de l'eau. Pourtant, c'est un problème intéressant en France aujourd'hui.
C'est un sujet intéressant. Ça, c'est une question à laquelle je m'attendais.
M'attendais à ce que vous y attendiez.
Si on ne l'a pas traité, ce n'est pas du tout parce que l'un des actionnaires d'M6, important, la Lyonnaise des Eaux, est de manière très importante acteur de ce marché. C'est parce que jusqu'à maintenant, on a eu d'autres sujets à traiter. On n'a pas considéré que c'était le sujet. On n'exclut pas du tout de traiter le sujet de l'eau. Et pour prendre un autre exemple, on a traité il y a 3 semaines dans Capital un sujet sur le recyclage des déchets. Et l'économie du recyclage, où la Lyonnaise des Eaux est un acteur important, et ça ne nous a pas empêché de dire que le prix du coût de vos poubelles chez vous avait doublé en peu de temps, que c'était de plus en plus cher, que c'était à coût...
Si j'étais vicieux, je vous répondrais que les intérêts économiques de la Lyonnaise
dans l'eau sont plus importants. Oui. Mais on le fera peut-être aussi. On essaiera de le faire avec
une petite idée, un vrai sujet, ça ne vient pas de Capital, ça vient de France 3.
En mars 87, je payais l'eau 5,47 francs le mètre cube. Et en 1996, je payais le mètre cube d'eau 27,25 francs. Je pense qu'il y a une grosse différence depuis le début, bien que la vie ait augmenté, mais pas dans de telles proportions.
En effet, 600% d'augmentation en 10 ans, M. Martin a bien du mal à digérer son verre d'eau.
Ça concerne les gens, ça, non ? C'est plan dans Capital ?
On le fera.
Très bien.
C'est vrai que c'est des sujets intéressants. Il ne faut pas s'arrêter à ce point de vue très réducteur que si l'eau a augmenté, c'est parce que derrière, il y en a qui ont pris des bénéfices, etc. Il y a peut-être aussi la qualité de l'eau est meilleure. On enquêtera, on regardera.
Je suis certain que vous ferez l'enquête avec la même qualité que vos autres enquêtes sur tous les autres sujets. Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice particulièrement difficile. Rediffusion de cette émission jeudi prochain à 14h30. Et si vous regardez précisément cette rediffusion, prochain arrêt sur image, dimanche prochain à 12h25. Au revoir. Voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.